Comme l'expliquait Michel Villet, le mot de responsabilité, qui évidemment a, dans la doctrine juridique contemporaine, tant de succès, semble manquer à nos origines juridiques européennes, en tout cas celles qui ont laissé le témoignage le plus prégnant dans l'Antiquité, c'est-à-dire dans le droit romain. Il apparaît véritablement d'usage courant du point de vue juridique dans les langues européennes, on va le voir, qu'à partir de la période moderne, et spécialement en réalité, on va le voir au XVIIIe siècle, même si bien sûr, dès le XVIIe, nous le verrons, les fondements seront posés. Alors quoi qu'il n'ignore pas la faute, le droit romain ne fonde pas d'abord la responsabilité sur elle. Il privilégie la réparation pour assurer, je cite Michel Villet, la défense d'une juste répartition entre les biens eux-mêmes répartis entre les familles pour un juste équilibre, un juste partage. Ce sum quique tribuere ou cette aquabilitas est typiquement romaine. Elle cherche à réparer une rupture d'équilibre, une rupture, aurait dit le maître des jurisconsultes romains, le maître philosophique macédonien Aristote, une rupture du méson, que ce soit entre les patrimoines matériels, les situations individuelles ou la paix sociale qui en résultait. De ce point de vue, la réparation intervenait comme justice corrective ou commutative pour tendre à faire disparaître le trouble dans la cité. Peu importait alors que le désordre apporté trouva son origine dans une faute ou dans une autre cause. L'important dans la conception romaine de la responsabilité est d'abord la réparation objective du dommage. Et la restauration de l'ordre antérieur, idéalement portée évidemment par la procédure de la restitutio in integrum, et non pas la rétribution négative du comportement fautif et donc subjectif de l'auteur du désordre à effacer. Alors, de ce point de vue, sont responsables tout simplement tous ceux qui sont susceptibles d'être appelés devant un tribunal pour une cause quelconque. Alors, on reconnaît dans cette absence de la responsabilité à proprement parler en droit romain la configuration dont les lecteurs de Michel Villet sont évidemment familiers, d'une cité antique, tant grecque que romaine, où l'important est l'appartenance à cette cité qui procure le droit lui-même. L'absence de droit subjectif concentre l'attention des juristes sur un droit objectif, source en réalité des obligations comme des droits à exercer, des droits à, et qui, par ailleurs, cherche donc à répartir à l'intérieur de cet ensemble limité, cette cité objective, l'équilibre des patrimoines en vue de la paix sociale. Alors, au fond de ce point de vue, l'important ici, sans doute, est l'obligation, déjà, mais elle ne procède pas nécessairement d'une volonté libre pour l'instant. Alors, nous savons que la distinction progressive par rapport à cette conception romaine originelle va s'effectuer sous l'influence médiévale de l'Église des canonistes. Alors je fais de très grands pas en espérant que, bien sûr, le texte soit un peu moins brutal dans les transitions. Donc une influence de l'Église des canonistes et d'une façon générale, bien entendu, en arrière-plan, une influence de cette religion nouvelle, le christianisme, qui vient très certainement rompre avec la conception civique antique, d'un culte civique et d'un salut quasiment par la cité que l'on fait collectivement dans la cité, dans le holon poliade. Alors que le christianisme, évidemment, apportant dans le christianisme originel la notion d'un salut personnel, d'une âme qui devient personnel, je ne dirais peut-être pas individuel, peut-être faut-il attendre le protestantisme pour à proprement parler, parler peut-être de l'individu chrétien, mais quoi qu'il en soit, quelque chose est posé dans cette région de l'Orient qui va être évoquée ensuite par ma collègue, quelque chose est posé qui est étranger à une très longue déjà tradition proto-juridique indo-européenne et intervient donc cet élément personnel, proto-individuel, par la fonction sotériologique de l'âme personnelle. De ce point de vue, quelque chose est posé dont probablement on ne prend pas toute la mesure dans une église qui est l'église catholique romaine, certainement fondée comme communauté de foi par le Christ en 33, mais fondée comme communauté de droit par Constantin en 313, et qui donc, eh bien, dès qu'elle a droit de cité, dès qu'elle sort des catacombes, passe par la médiation d'un corpus qui est clairement celui de l'Imperium, qui par conséquent va, me semble-t-il, c'est une hypothèse, longuement différer les conséquences potentiellement individualistes de la christianisation de l'Europe sur le droit des obligations et, on va le voir aussi, sur le droit politique. Alors, bien entendu, néanmoins, dans l'Église médiévale, la place que ne peut pas ne pas prendre, quelles que soient les interprétations romaine, celtique et germanique de l'Église européenne médiévale, on ne peut évidemment pas se débarrasser du dogme d'un péché originel qui fait eh bien, tout fidèle le titulaire d'une culpa originelle. Alors, le fait même qu'elle soit originelle nous montre qu'elle n'est pas individuelle, du coup, puisque finalement elle s'hérite, hein, elle est quasiment, on pourrait dire qu'elle est héréditaire, mais enfin, cette fois, la culpa est constitutive d'une anthropologie chrétienne qui va avoir des conséquences plus tardives. Mon sentiment, pour terminer cette introduction trop longue, est que le Moyen-Âge offre une sorte d'équilibre entre l'objectivisme antique et une prise en compte de la personne qui va très souvent aboutir à, eh bien, en droit des obligations, en droit pénal, des questions de circonstances, des aménagements circonstanciels, de la peine, des aménagements circonstanciels de la dette, des délais moratoires, dans une situation d'équilibre où, néanmoins, c'est vrai, la culpa, traduction au substitut du péché, prend progressivement une place majeure. De ce point de vue, dès le Moyen-Âge, la responsabilité cesse d'être d'abord patrimoniale. Elle est déjà d'abord une expiation de la faute et elle est évidemment complétée par la réparation du dommage. Alors, sur ces bases très durables, hein, antiques et médiévales, avec, me semble-t-il, beaucoup moins de ruptures de continuité, curieusement, entre l'Antiquité païenne et le Moyen-Âge catholique, qu'entre le Moyen-Âge catholique et l'Europe protestante, dont va sortir, en fait, une bonne partie de notre propos. Alors, cette mutation, elle va avoir lieu donc nécessairement dans la première, finalement, véritable grande crise, là où la christianisation aurait pu être une métamorphose culturelle, une pseudomorphose, comme dit Oswald Spengler, fatale. Ça n'a pas été le cas. Et au fond, la grande rupture apparaît plutôt au moment où l'œcumène européen, après avoir pris la forme durable de l'Empire romain, prend la forme non moins durable, de la Respublica Christiana. C'est donc la crise de cet œcumène européen, de la Respublica Christiana, évidemment avec la déchirure du manteau sans couture de l'Église, avec la Réforme, qui ouvre en fait notre sujet, qui va faire naître une responsabilité, cette fois, non plus de la personne, c'est-à-dire celle qui, si l'on en croit l'étymologie latine, si c'est la persona, hein, celle qui sonne à travers, hein, personare, le prosopos grec, donc celui qui porte le masque, hein, parle à travers le masque, le prosopos, la persona, qui est encore un personnage, donc qui joue un rôle sur la scène de la société, ce qui, me semble-t-il, souligne le caractère holistique de la personne antique et médiévale. Alors que, à partir de la fin de cette Respublica Christiana, c'est un individu qui apparaît, et c'est donc lui, maintenant, qui va devenir progressivement responsable. Je vous propose de tenter de le voir d'une façon plutôt suggestive, eu égard à la montre que je regarde, en envisageant d'abord la responsabilité de l'individu au sein de la société civile. C'est la question de l'obligation. Avant de voir la responsabilité de l'individu au sein de la société politique, c'est la question de la représentation. Alors d'abord, la responsabilité de l'individu au sein de la société civile, la question de l'obligation. Cette question de l'obligation, ça va être une morale de l'obligation. Une morale de l'obligation, nous allons le voir, dans l'école moderne du droit naturel. Et puis les choses vont se retourner, et cette morale de l'obligation va devenir une obligation morale dans la philosophie des Lumières, qui hérite en fait d'un legs juridique, où il semble que les juristes aient été premiers dans la définition de cet individualisme dont la philosophie des Lumières va hériter. Alors d'abord, une morale de l'obligation. Cette morale de l'obligation, elle naît évidemment dans de cette fin de la Respublica Christiana, qui en termes juridiques est la fin du jus commune, et la fin d'un droit commun de l'Europe, le droit savant que nous connaissons tous, dans une langue unique, dans des universités uniques, pontificales, ainsi de suite, l'utrumque ius. Alors là, c'est nécessairement la fin de la Respublica Christiana avec l'apparition du protestantisme et des puissances protestantes, mais fin du coup au référent évidemment religieux commun, et met fin à la condition finalement d'un jus commune, compris de tous. Alors c'est beaucoup plus qu'une question évidemment religieuse, confessionnelle, c'est toute une question culturelle, puisque le cultuel emporte toujours le culturel, et c'est tout simplement la progressive impossibilité de se comprendre en réalité au sein de l'Europe désormais moderne, ce qui implique par conséquent la nécessaire mutation, on le comprend, d'une philosophie du droit, une conception du droit qui jusqu'à présent a été la juste répartition dans un œcumène homogène de biens compris de tous, valorisés de tous, qui ne peut plus être faite. Et de ce fait, la perte du repère communautaire entraîne la mutation du droit qui ne peut plus être en fait une relation qui n'est plus universellement, ou en tout cas civilisationnellement partagée au sein de l'Europe. Alors, c'est de cette crise du jus commune que naît, dans le phénomène de la contre-réforme catholique, on le sait, l'école de Salamanque, l'école, finalement, de la seconde scolastique, qui aurait dû, bien sûr, prolonger la première et renouveler le droit naturel que nous appelons ancien ou classique, et par une hétérotélie spectaculaire, va préparer finalement l'école du droit naturel moderne. On sait comment tout ça s'est fait, je n'ai pas du tout de temps, je rappelle le processus, hein, tout part de choses extrêmement conjoncturelles, la conquête de l'Amérique du Sud, les réticences de Charles Quint, qui se pense encore comme un empereur médiéval, à exercer finalement une prédation sur les possessions indiennes, et donc les consultations qu'il demande à Francisco de Vitoria, qui va être forcé par charité chrétienne, finalement, pour parvenir à aménager un droit des Indiens à une propriété au moins minimale, qui va être forcé de leur reconnaître un droit qui n'est plus un droit civilisationnel partagé à l'intérieur d'un œcumène, mais qui, du coup, est nécessairement extra-civilisationnel. Alors, si le lien n'est pas civilisationnel, donc s'il n'est pas collectif ou plutôt communautaire, il va falloir qu'il soit individuel. Il va falloir qu'on reconnaisse une forme de propriété individuelle aux Indiens. Donc, de ce point de vue, il y a une voie qui s'ouvre, qui est probablement en partie imprévue, qui va aboutir à la construction complexe de toute une argumentation pour savoir comment la puissance doublement la double puissance impériale espagnole peut protéger les droits des Indiens sans repartir chez elle, et ça va être le jus communicationis de Francisco de Vitoria. Dieu aurait mis en nous ce désir de communication que les Indiens ne pourraient pas nous refuser, tout en reconnaissant qu'il est donc un droit qui doit nous entraîner à reconnaître leur droit. Alors, à partir de cette base, on le sait, dans l'école, quant à elle, protestante, qui n'a donc pas le problème de l'hétérothélie de Salamanque, on va trouver évidemment chez Hugues de Grotte, chez Grotius, la première véritable, on le sait, formulation de cette responsabilité individuelle. Alors, on le sait, dans son ouvrage « De iure belli ac pacis », dans la longue partie des prolégomènes, le processus d'abstraction apparaît. Au prolégomène 58, Grotius dit « On me ferait injure en pensant que je me suis préoccupé d'aucune des controverses de mon siècle. J'affirme en effet qu'ainsi que les mathématiciens considérant des figures, abstraction faite des corps, de même en traitant du droit, j'ai détourné ma pensée de tout fait particulier. » Donc, effectivement, plus de référents culturels communs, une sorte de raisonnement infraculturel ou supraculturel selon évidemment les sensibilités va être proposé, qui est un raisonnement rationnel. Et dans ce raisonnement rationnel, on va trouver au célèbre prolégomène 8, chacun doit réparer le dommage commis par sa faute. Alors là, on a dans un ouvrage qui n'est pas fait pour ça, dans un ouvrage qui est fait pour mettre fin à l'une des conséquences de la fin de la Respublica Christiana, c'est-à-dire la guerre de 30 ans, l'affreuse guerre de 30 ans qui est la première saignée extraordinaire de l'Europe, quelques 4 millions de morts. Et bien pourtant, c'est au sein de cet ouvrage qu'apparaît cette question de la responsabilité individuelle. Il est très sensible que la question de la communauté a disparu et que la voie est ouverte vers un droit qui n'est plus objectif, mais subjectif chez Grotius, et qui donc va s'attacher désormais à non plus la répartition d'un équilibre global, mais la réparation d'un dommage individuel. Alors, cette exigence chez Grotius, dans ce contexte protestant, cette morale de l'obligation, en pleine Europe qui se déchire, va être héritée par la philosophie. Alors là, il semble y avoir une précédence des juristes. La philosophie va en hériter, et si j'avais eu le temps, je n'hésiterais pas. Voilà. Et si j'avais eu le temps, j'aurais parlé de John Locke en montrant comment ce qui était la morale de l'obligation devient une obligation morale dans les deux traités du gouvernement civil de 1689. Ce qui est tout à fait intéressant chez Locke, c'est que partant de la nécessité, alors c'est une série de faits qui s'enchaînent, de réactions en chaîne, le désordre européen amenant l'absolutisme comme solution à ce désordre, la théorie de Hobbes est parfaite en la matière pour l'exprimer, il faut maintenant trouver des contrepoids à cet absolutisme qui lui-même répondait. Donc on voit comment la fin de l'œcumène européen, si on compte l'Empire romain et la chrétienté, quelques deux millénaires de stabilité civilisationnelle, entraîne une série très rapide de catastrophes successives. Alors Locke cherche à résister dans un contexte anglais très, très compliqué. Il y a déjà eu la première révolution anglaise et le premier régicide de Charles Ier. Donc dans un contexte très compliqué, la tentation absolutiste des Stuarts aménageait une résistance contre l'autorité du prince qui très rapidement l'amène à tenter d'aménager une résistance épistémologique, de même qu'on ne se fie pas à l'autorité traditionnelle du prince, il s'agira d'abord de lui résister à l'intérieur de soi par le refus de se fier à l'autorité de la tradition. C'est-à-dire, je ne me fie pas au prince qui est hétéronome par rapport à moi, et je ne me fie pas au prince, c'est-à-dire à la tradition à l'intérieur de moi, qui est le préjugé, mais qui est même, pour Locke, c'est très radical, presque tout jugement d'autrui. Alors, se dessine déjà un solipsisme qui va être assumé pleinement par Kant, évidemment, et qui va aboutir, on le sait, à la définition kantienne de l'impératif catégorique, n'avoir aucune action que je ne puisse partager avec l'ensemble de l'humanité. Le critère de tout acte est de pouvoir être l'acte de tous, et qui, évidemment, aboutit à désubstantialiser tout à fait le comportement de la personne. Ça ne peut plus être une personne, elle ne porte plus le masque sur une scène, elle doit ôter le masque et se trouver dans une sorte de nudité originelle qui, eh bien, est l'individu à proprement parler, sans que l'on sache très bien, vous le devinez, s'il a gagné sa totale autonomie ou si en réalité, d'une façon tout à fait paradoxale, il est parvenu à une auto-hétéronomie, si je puis me permettre cette expression curieuse, c'est-à-dire par le sacrifice, en fait, de sa personnalité. Alors, sous une forme de conclusion, ce que j'aurais fait en grand deux, la responsabilité de l'individu au sein de la société, cette fois politique, c'est la question de la représentation. Alors, pardon, Madame la Présidente, en tentant d'être synthétique, ce que je voudrais souligner surtout, c'est le rapport entre l'obligation et la représentation. Vous avez vu que cette obligation qui devient individuelle, elle va aboutir à une introspection croissante. Si nous avions le temps, nous montrerions le rapport entre le protestantisme et cette introspection croissante qui est le trait commun de tous ces penseurs. Hein. On part de Grotius, on arrive à Rousseau, tout le monde fait de l'introspection, finalement typiquement protestante. Et dans cette introspection, que s'agit-il de faire ? Il s'agit de ne plus faire confiance à l'immédiateté de l'héritage, mais s'obliger de façon épistémique à reconstruire rationnellement notre propre pensée. C'est-à-dire, non pas à, finalement, s'incarner, mais se représenter. C'est un monde de représentation. C'est le monde comme représentation, comme le dira un philosophe plus tardif. Donc, il s'agit déjà de se représenter le monde à l'intérieur de soi. Chez Kant, c'est totalement fou. Chez Kant, il faut se défier de son goût. Hein, une belle œuvre d'art. Attention, j'ai aimé cette œuvre d'art. Je dois tout de suite me remettre en cause. Ce n'est pas normal. J'ai été subjectif. Je dois immédiatement reconstruire à l'intérieur de moi l'œuvre d'art. Donc, la représentation, et non pas la présence à soi, l'incarnation, qui était finalement incarnée par la médiation de l'Église, elle est gommée dans le protestantisme. Il n'y a plus, à vrai dire, cette incarnation, tout doit être représenté. Alors, eh bien, cette représentation, elle va devenir souveraine dans l'absolutisme. Qui est le souverain dans l'absolutisme ? C'est la représentation elle-même. Le représentant est souverain. Chez Baudin, chez Cardin Lebray, avant lui, chez Loiseau, qui a cette formule extraordinaire, la souveraineté, ce qui donne l'être à l'État. C'est-à-dire, c'est une pure représentation. Hobbes, qui est en exil pendant la première révolution anglaise, chez nous, retient la leçon de tout ça, va l'exacerber dans le Léviathan. Un peuple qui n'existe qu'en tant qu'il est représenté par le Léviathan, c'est-à-dire en fait un représenté qui est postérieur au représentant. Vous voyez le degré d'abstraction que nous atteignons. Et puis, eh bien, je dirais que ce qui a été une représentation par le tiers, hein, dans la pensée des absolutistes, dans la pensée de Hobbes, hein, c'est-à-dire qu'il faut que tous les hommes qui font la guerre entre eux désignent un tiers, hein, le prince ou le Léviathan, eh bien tout ceci va aboutir à la révolution, non plus à la représentation par le tiers, mais au tiers représenté. Là aussi, les choses s'inversent. L'état du tiers devient le tiers-état, avec cette ambiguïté, représentation du peuple pour les rousseauistes, représentation de la nation pour Sieyès. En vérité, dans les deux cas, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une abstraction. Dans les deux cas, la médiation a disparu. Elle avait disparu à l'origine de mon propos, dans la fin de la médiation ecclésiale. Elle a disparu avec les corps intermédiaires dans la société politique. Merci.